Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous accompagner sur France Inter pour ce début de soirée.
Marion Lourd, le téléphone sonne.
Le cœur qui palpite, des douleurs dans les jambes, la peau qui gratte, du mal à dormir, à marcher, à respirer, des troubles de mémoire et une sensation de brouillard dans le cerveau qui empêche de penser. Voilà quelques-uns des centaines de symptômes du Covid long, cette forme durable et encore mystérieuse de la Covid. Frapperait 10 à 15% des malades. Et si les hospitalisations pour Covid restent pour le moment contenues, le Covid long pourrait être le prochain problème de santé publique avec le variant Delta et la quatrième vague. Alors, avant, on conseillait aux malades d'aller chez le psy. Maintenant, même le président de la République dit que ce problème le préoccupe. Le Covid long est-il assez reconnu, de plus en plus répandu? Et comment vivre avec cette forme du coronavirus? Question posée au téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et on va démarrer cette émission avec Angélique qui nous appelle de l'Ain. Bonsoir Angélique.
Bonsoir Marion.
Bienvenue sur France Inter, c'est à vous.
Et merci. Donc moi en fait, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'une ou plusieurs études s'occupent d'observer les liens entre une hygiène de vie corporelle et environnementale dégradée, les comorbidités et les séquelles à Covid long? Parce que voilà, il me semble que il y a des liens à faire. Quand on discute avec les gens, sans être forcément scientifique chercheur, on se rend compte qu'il y a des liens à faire. Donc si nous, en tant que personnes, on s'en rend compte, au niveau des scientifiques et des chercheurs, ils ont dû probablement encore plus s'en rendre compte. Donc, je voudrais bien savoir qu'en est-il à ce propos.
Merci pour votre appel Angélique. Pour vous répondre ce soir avec nous, Dominique Salmon-Séron, infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Et à distance, Mathieu Lestage, membre de Après J20, l'association Covid long, et qui souffre encore lui-même de cette forme de la maladie. Bonsoir.
Bonsoir Marion. Oui, il souffre encore malheureusement d'une forme longue du Covid.
Alors peut-être je me tourne vers vous d'abord Dominique Salmon-Séron pour répondre à Angélique. Est-ce qu'il y a des liens entre l'hygiène de vie, le cadre de vie et les formes de Covid long qui peuvent apparaître chez certains patients?
Alors cette question de l'hygiène de vie spécifiquement, on l'a pas étudiée. Je peux vous répondre en vous disant qu'on a été très surpris de voir beaucoup de Covid long après la première vague. Donc je pense qu'après la première vague, les gens n'avaient pas de masque et étaient contaminés de façon massive. Et donc probablement la charge virale était plus élevée et le fait d'avoir instauré les mesures barrières a dû faire un petit peu diminuer les nouveaux cas. Ça c'est certain. Ensuite, effectivement, il y a des facteurs de risque, mais qui sont plus liés à l'individu. Par exemple, on observe beaucoup plus de Covid long chez les femmes, chez les jeunes, chez les personnes allergiques. Peut-être il y a aussi de la recherche sur les maladies auto-immunes. Donc il y a effectivement des gens qui sont plus à risque que d'autres. Mais c'est pas vraiment l'hygiène, ça. C'est un peu différent.
Mathieu Lestage, est-ce que quand ça vous a touché, quand ça vous a frappé le Covid long, est-ce que vous vous êtes dit pourquoi moi? Est-ce que vous avez trouvé des éléments d'explication?
C'est certain que j'avais pas levé la main pour attraper le Covid.
C'est sûr.
Pourquoi moi ou pourquoi quelqu'un d'autre? Je ne vois pas une maladie, elle ne choisit pas qui elle touche. J'ai pourtant respecté les gestes barrières, j'ai fait tout ce qui était possible de mettre en place. Malheureusement, je l'ai attrapé.
Lors de la première vague?
Lors de la deuxième vague.
Deuxième vague.
Oui, ça fait 9 mois aujourd'hui que je suis en Covid long.
Quels sont vos symptômes?
Aujourd'hui, j'ai le premier qui est le plus dérangeant, c'est les tremblements qui apparaissent quand je fais une activité un peu plus conséquente que ce que je devrais. Ensuite, j'ai mon système nerveux autonome qui est touché, j'ai un problème neurologique et j'ai le fameux brouillard cérébral avec le problème de concentration, coordination, ce qui m'empêche de conduire. Et plus je force, plus ce brouillard va s'installer jusqu'à vraiment, si je ne m'arrête pas, un malaise vagal, c'est-à-dire que tout mon corps s'arrête et je perds connaissance.
Dominique Salmon-Séron, ils sont extrêmement variés en fait les symptômes du Covid long.
Oui, effectivement, ils sont très variés. Maintenant, on arrive quand même à les classer en différentes catégories. Et les signes que présente Mathieu sont parmi les plus fréquents. Ces signes neurologiques, cette impression de brouillard cérébral sont parmi les plus fréquents. Ensuite, il y a la fatigue, très importante. Donc, soit une fatigue provoquée par l'effort, soit on est tout le temps fatigué. Et puis, les signes cardio-thoraciques. Mais en fait, tous les organes peuvent être atteints. Effectivement, ça donne beaucoup de symptômes. Mmh. Mais c'est à nous ensuite de les reclassifier. Et ça, cette année qui a connu quand même pas mal d'avancements dans les recherches, a permis de classer ces symptômes, justement, de voir ceux qui disparaissaient, ceux qui persistaient. Voilà, on en est là maintenant.
Et comment on fait pour déterminer avec précision, avec exactitude qu'il s'agit d'un Covid long? Parce que la fatigue, ça peut venir d'une maladie chronique, les douleurs, ça peut venir d'une autre maladie. Comment on fait pour dire ça, à coup sûr, c'est un Covid long?
Alors, on commence à avoir des définitions. Elles ne sont pas consensuelles entre tous les pays, mais en France, on a une définition du Covid long. Donc, il faut avoir fait une Covid avec des signes cliniques évocateurs, pas forcément avoir une PCR ou une sérologie, parce qu'on sait que certaines personnes n'ont pas de sérologie ou de PCR, et avoir des symptômes qui persistent au moins un mois après la Covid, parce qu'on pense qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, normalement, le virus a disparu, donc les symptômes, même sévères, devraient avoir disparu. Si ça persiste au-delà d'un mois, surtout si c'est des signes qui existaient au départ, on rentre dans une phase de Covid long. Donc c'est vrai que c'est très vaste. Il y a des gens qui vont avoir quelques symptômes qui vont disparaître en 3-4 mois, des Covid longs mais très modérés, et puis d'autres chez lesquels les symptômes peuvent persister jusqu'à un an, puisque maintenant on a un peu plus d'un an de recul, on voit que certaines personnes ont encore des symptômes.
Et vous disiez, ça touche beaucoup les femmes, beaucoup les jeunes, donc c'est peut-être ça le prochain problème, sachant que les hospitalisations n'augmentent pas autant qu'elles ont augmenté lors des dernières vagues.
Oui, tout à fait. C'est certainement un problème de santé publique important parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un an de Covid long, à peu près la moitié des personnes arrivent à reprendre leur travail à temps complet, mais d'autres à temps partiel et un petit pourcentage ne sont toujours pas rétablis. Donc c'est sûr qu'on a devant nous un gros problème de santé publique et d'organisation des soins.
Et combien de temps ils peuvent durer ces symptômes ?
Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout d'un an, à peu près 80% des gens s'améliorent de façon significative. Soit beaucoup, soit un peu. Mais ça veut dire qu'il reste encore 20% de personnes qui restent vraiment extrêmement gênées.
Mathieu Lestage, est-ce que vous observez avec le temps une évolution positive de vos symptômes? Est-ce que ça diminue, ça va mieux?
Alors, le mot positif aujourd'hui ne me convient pas, dans le sens où effectivement il y a eu une amélioration. Dans ce sens, c'est positif. Mais aujourd'hui, j'ai un quotidien, s'il est aménagé, qui est vivable, mais qui ne correspond en rien à ma vie que j'ai pu avoir avant. J'étais quelqu'un de très actif, sportif. Je suis directeur d'un magasin, je suis chroniqueur radio, chroniqueur télé, youtubeur. J'avais une vie chargée. Aujourd'hui,
vous avez quel âge, si je puis me permettre?
J'ai 43 ans. Mm-hmm. Ma vie, elle est en pause. Aujourd'hui, il faut que je chronomètre mes activités pour ne pas dépasser un certain temps ou un certain timing dans mes activités. Il faut que je fasse des siestes pour récupérer. Si, admettons, je fais une heure dehors de jardinage, ou enfin, jardinage, c'est pas bêcher, c'est ramasser des herbes ou désherber. Je sais que derrière, j'ai 45 minutes où je dois m'allonger pour reprendre mon souffle, pour reprendre, refaire monter ma jauge d'énergie. Alors qu'avant, je pouvais enchaîner toutes les activités que je viens de vous énoncer. Mmh. Donc, dans ce sens-là, pour moi, ce n'est pas positif. Après, il faut rester positif. On va utiliser ce mot parce qu'il est important. Il faut rester positif parce que effectivement, oui, il y a de l'amélioration. Je dis souvent que je vais à la vitesse de la tortue alors que j'aimerais aller à la vitesse du lièvre.
Est-ce que vous pouvez le rassurer, Dominique Selle-Montceron, Mathieu Lestage? Est-ce que vous pouvez lui dire que, au bout de quelques mois, quelques années, peut-être, ça va disparaître complètement, ou on ne sait pas encore?
Mais si on fait une analogie avec les autres formes de fatigue post-infectieuse, c'est des choses qui peuvent durer quand même 3-4 ans. Ça commence à s'améliorer au bout de quelques mois, mais ça peut durer. Donc je peux pas être complètement rassurante, mais les statistiques, les études qui ont été faites, et il commence à en sortir quelques-unes, montrent que ça s'améliore. Mais ce que les patients veulent, c'est pas une amélioration. Je comprends bien ce que veut dire Mathieu. Ce qu'ils veulent, c'est revenir à leur état antérieur. Et ça, malheureusement, c'est pas encore quelque chose de gagné. Avec plusieurs mois de recul, voire un an de recul, rares sont les gens qui disent « j'ai retrouvé mon état antérieur ». Et c'est ça l'objectif des patients. C'est retrouver leur état antérieur. Alors, comme le dit Mathieu, là aussi, c'est vraiment très très bien illustré. Il faut être résilient. Il faut quand même faire des activités pour pas se démuscler, pas se déconditionner, mais savoir qu'on on peut plus les faire comme avant, donc les faire très progressivement et s'arrêter au moment où on sent qu'on a plus d'énergie pour pas être complètement à plat. Donc, ouais, vous l'illustrez extrêmement bien, Mathieu, dans votre témoignage.
Jeanne a appelé le standard de France Inter, elle nous appelle de Dordogne. Bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir à vous tous et aux invités.
Vous aviez une question pour nos invités, justement.
Oui, tout à fait. Qu'en est-il de la vaccination qu'on repropose aux personnes qui sont en Covid long avec des symptômes, dont le brouillard neurologique, la fatigue, etc. Ce que vient très bien de décrire la personne qui est encore atteinte par cette maladie.
Mathieu Lestel, oui. Vous voulez dire, est-ce qu'on peut se faire vacciner?
Ah, c'est pas qu'on peut, c'est que c'est proposé. Donc je voulais savoir s'il y avait un recul ou s'il y a des contre-indications. Enfin, à savoir, quelle est la position médicale par rapport à ça.
Dominique Salmon-Séron.
Alors la position médicale est qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Les avantages, c'est de pas refaire une infection avec un variant contre lequel vous seriez pas protégé parce que vous n'avez pas eu les bons anticorps ou même pas d'anticorps. Et puis, vous êtes quasiment certain d'acquérir des anticorps. Bon, c'est pas du 100%, mais on s'est rendu compte que même les gens qui n'avaient pas fait d'anticorps après un Covid long, développer des anticorps après la vaccination. Maintenant, il faut quand même être prudent et pas se faire vacciner si on est en pleine poussée. Parce qu'on peut avoir une exacerbation des signes juste après la vaccination. On a à peu près 25% des patients qui vont faire à nouveau des symptômes, par exemple un essoufflement, mal à la tête, mal aux muscles. Même, j'ai vu un patient qui avait une anosmie juste après la vaccination. Et ça
donc
dure pas longtemps.
Il ne sentait plus les odeurs.
Oui, ça dure 10-15 jours. Et après, certains patients, mais on n'a pas de statistiques, disons de l'ordre de 20%, voient une amélioration de leurs symptômes. Donc, je pense que ces aggravations que vous craignez, elles peuvent survenir chez 25% des gens. Donc, il faut faire attention avec le médecin traitant de bien être sûr qu'on n'est pas en poussée, par exemple, qu'on n'est pas en poussée de myocardite ou de péricardite. Là, effectivement, on risquerait peut-être une aggravation. Mais la majorité des personnes Covid long ne sont pas en contre-indication vaccinale. Au contraire, elles en tirent un bénéfice. Et au niveau de la population, bien sûr, il faut se faire vacciner. Ça, c'est
justement
quand même extrêmement important pour éviter d'avoir un Covid long.
Justement, il y a Anaëlle qui nous appelle de Loire-Atlantique à ce sujet. Bonsoir Anaëlle, bienvenue sur France Inter.
Merci, bonsoir à tous. Oui, donc je voulais savoir, puisqu'on nous dit que la vaccination préserve des formes graves de la Covid, est-ce que si malgré tout, une fois vacciné, on l'attrape, est-ce que ça préserve du Covid long?
Alors, Dominique Salmon-Séron?
Non, ça vraiment, j'ai pas la réponse à votre question.
Ah, on ne sait pas si le vaccin protège du Covid long.
Mais il protège du Covid,
tout court.
Donc, comme il protège du Covid, à 80-90%, il va protéger du Covid long. Mais si on attrape la Covid malgré la vaccination, ce qui est quand même très très rare, hein, chaque médecin compte les patients sur les doigts de la main, à ce moment-là, est-ce que ça va protéger du Covid long? C'est votre question, Anaëlle. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant.
Mathieu Lestage, est-ce que vous vous êtes fait vacciner, vous, avant, après votre contamination?
Alors, pour le moment, justement, moi, mon médecin, pour le moment, vu mon état, les phases les phases compliquées que je traverse actuellement, les malaises vagales ou syncopes, on est encore un peu indécis sur ce qu'il se passe quand je fais un malaise post-effort. Pour le moment, il ne tient pas à ce que je sois vacciné. C'est pas mon cas. Moi, je veux être vacciné. Pour le moment, c'est une contre-indication médicale, ce qui m'empêche, dans l'absolu, pour le moment, d'avoir le pass sanitaire. Et personnellement, je trouve que c'est un frein dans mon évolution. En fait, ce n'est pas vital d'aller faire une sortie dans un lieu culturel ou dans un restaurant Mais qu'est-ce que ça fait du bien au bout de 9 mois de pouvoir sortir et de se dire qu'on peut prendre un bon repas sur une terrasse dans un restaurant.
Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'exemption qui serait liée au fait que vous ne pouvez pas vous faire vacciner. Vous êtes obligé de présenter un pass sanitaire malgré tout.
Comme l'a dit le professeur, aujourd'hui, il y a 25% de risque, mais ça veut dire qu'il reste 75% qui sont bénéfiques. Je suis, comme vient de le dire le professeur, dans la phase encore un peu aiguë. Donc, pour le moment, mon médecin traitant a refusé de me faire vacciner. Pour reprendre une vie normale, je souhaite être vacciné pour être protégé, pour éviter de faire une rechute ou une recontamination. Il n'est en aucun cas pensable de reprendre une activité dite normale sans être protégé et vacciné. C'est pour ça que je conseille aux gens aujourd'hui en pleine santé. C'est vrai qu'on ne pense pas à la maladie quand on est sain, c'était mon cas d'ailleurs, mais de se faire vacciner, de se protéger, et ceux qui ont eu le Covid et qui s'en sont sortis, aussi de se faire vacciner, on ne s'en rend pas compte, mais c'est nécessaire.
On a une question de Pierre qui nous a écrit sur l'adresse mail de France Inter qui dit « Ayant eu le Covid en novembre dernier, je souffre aujourd'hui de grosses douleurs articulaires, céphalées, diarrhées. Sommes-nous nombreux et quelles peuvent être dans l'état de nos connaissances les solutions ?» Alors Dominique Selmont-Séron, effectivement, je disais tout à l'heure 10 à 15%, est-ce que c'est un chiffre réaliste de personnes qui seraient atteintes du Covid?
Oui, c'est ça, c'est peut-être même plus si on se place par exemple à 3 mois, c'est plutôt 30% qui ont encore quelques symptômes, mais si on est à 6 mois, c'est de l'ordre de 10 à 15% en effet.
Des anciens malades.
Oui, des anciens malades, oui.
Alors, quelles peuvent être, dans l'état de nos connaissances, les solutions? Ça, c'est la partie un peu positive de la question.
Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas de solution toute prête pour tous les patients. Par exemple, pénicilline pour la méningite, par exemple. Mais on doit faire donc des traitements à la carte. Mais ces traitements, on a quand même 4 groupes de traitements. Le premier, c'est les traitements symptomatiques. C'est-à-dire qu'en fonction des symptômes présentés par le patient, on va pouvoir le soulager. S'il y a des diarrhées, s'il y a un essoufflement, s'il y a une péricardite, on a des traitements qui soulagent les symptômes. C'est très important de le savoir. Donc, les médecins peuvent prescrire tout un tas de traitements. Il n'y a pas de contre-indication. Deuxième chose qui marche vraiment pas mal, c'est la rééducation. Sous tous azimuts. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on donne un ordre au cerveau de retravailler dans une bonne direction. Donc, on fait de la rééducation olfactive. La rééducation neuropsychologique pour les gens qui ont du brouillard cérébral avec un orthophoniste, la rééducation par le sport.
Ça prend beaucoup de temps, ça.
Oui, mais les rééducateurs se mettent vraiment en place pour ça, y compris les kinésithérapeutes. Troisième solution, c'est ce que fait Mathieu, c'est-à-dire essayer de s'autogérer, de voir qu'est-ce qui déclenche les symptômes et d'être toujours en deçà de l'exercice physique qui va faire que votre batterie va être à plat. Donc, c'est de la résilience, quoi. On appelle ça aussi le pacing. Et quatrième chose, c'est la prise en charge psychologique. Parce que ce Covid long est très, très angoissant pour les gens. Ils savent pas quand, on voit plus l'avenir. On sait pas quand est-ce qu'on va revenir comme avant. Et on peut donc déclencher un gros stress, une dépression, même peut-être certains pensent que le virus lui-même peut déclencher des troubles de l'humeur. Et donc, cette prise en charge psychologique, il ne faut pas du tout la négliger. Ça ne veut pas dire du tout que le Covid long est une maladie psychosomatique, mais ça veut dire que les conséquences sont importantes. Et j'ai remarqué que certains types d'antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, noradrénaline, marchent bien. On a l'impression que ça stimule un peu certains neuromédiateurs. Et donc, si les médecins proposent cette solution à côté des autres, il ne faut pas non plus la négliger.
Voilà. Mathieu Lestage, vous avez une vraie rééducation, un vrai suivi de rééducation, où vous vous contentez, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une activité physique modérée, de faire du jardinage, etc. Ça se passe comment pour vous?
Non, j'ai vraiment du monde autour de moi. Quand j'ai eu ma phase infectieuse, j'ai eu le Covid pendant 3 semaines, quasiment 3 semaines et demie, un départ aux urgences pour suspicion d'embolie pulmonaire. J'ai failli mourir dans la voiture, c'est les pompiers qui m'ont récupéré sur l'autoroute en urgence pour m'amener aux urgences. Et bizarrement, le soir, le médecin urgentiste m'a laissé repartir et en me disant que je ne cochais aucune case. J'étais jeune, en excellente santé. C'est d'ailleurs ça qui... Il m'a dit que clairement, c'était ça qui m'avait sauvé la vie. Et donc, il m'a dit que j'allais très vite récupérer au bout de 2-3 semaines, un mois, et que ça allait très vite se passer. J'en suis à 9. Et en fait, en sortant de l'hôpital et quand je suis reparti le soir avec ma femme dans la voiture, j'ai dit, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça tout seul avec de l'essoufflement quand je monte un escalier ou quoi que ce soit. J'ai lu un article. C'était le professeur Salmon Seron qui l'avait écrit, où elle décrivait l'ensemble des symptômes que je pouvais avoir. Et donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'Hôtel Dieu et j'ai par chance eu un rendez-vous le 21 décembre à l'Hôtel Dieu. Où là, en fait, j'ai rencontré son équipe, le professeur, le docteur Slamador Saf, où là, elle m'a dit, écoutez, on ne peut pas vous laisser comme ça. J'ai fait une multitude d'examens, IRM cérébral, scanner thoracique, TEP scan, échographie cardiaque. Enfin, je crois bien que j'ai jamais vu autant de médecins dans ma vie que depuis 9 mois. Et aujourd'hui, le médecin le plus important, c'est mon kiné. Je fais de la rééducation sportive. J'étais quelqu'un de sportif. Je pouvais enchaîner 10 km de roller et une séance de musculation derrière. Ça ne me posait aucun problème. Aujourd'hui, j'en suis réduit à faire 1 km 400. Et si je force le 1 km 400, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon corps s'arrête. 1 km 400, honnêtement, pour moi, c'est rien. Et mon kiné m'aide à reprendre cette activité. Je sais que mon corps en est capable, puisqu'il l'était avant, mais aujourd'hui, ça m'est impossible.
Dominique Salmon-Seron, des services comme le vôtre, qui sont capables de suivre, de diagnostiquer et de suivre ensuite les patients atteints de Covid long, il y en a de plus en plus en France aujourd'hui?
Oui, il y en a de plus en plus, mais il ne suffit pas de mettre quelques services spécialisés, si vous voulez. Les gens sont trop nombreux. Donc, l'objectif des autorités de santé, c'est que tous les médecins généralistes puissent avoir des outils pour au moins la prise en charge de base. Et c'est ce que la Haute Autorité de Santé a fait en faisant des recommandations au mois de février 2021. Des recommandations qui vont d'ailleurs être actualisées régulièrement. On va faire une actualisation au mois de septembre prochain. Et si cette prise en charge déjà de premier recours ne marche pas, à ce moment-là, il y aura des étages supérieurs avec... au niveau territorial, une organisation de spécialistes et puis quelques centres spécialisés. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire reposer la prise en charge d'une maladie qui touche tout le monde sur quelques centres spécialisés. Sinon, les gens vont avoir des délais d'attente de 6 mois, ce qui n'est pas compatible avec une bonne prise en charge.
Je précise que les recommandations de la Haute Autorité de Santé, depuis quelques semaines, quelques jours, elles concernent aussi les enfants. C'est-à-dire que les enfants aussi peuvent être suivis par ce genre de service.
Alors, c'est le PIMS de l'enfant, les formes graves de l'enfant. Les Covid longs de l'enfant, c'est quelque chose qui n'est encore pas très clair, mais qu'on voit. C'est sûr que ça existe, notamment chez des jeunes adolescents. Il faut se méfier quand un jeune ado fait une dépression, ne suit plus à l'école. Un ado qui travaillait bien, qui était très fort en maths, en espagnol, en philo, il n'arrive plus à travailler. Ça peut être une dépression, mais ça, il faut se méfier aussi de Covid long. Donc, effectivement, il y a une mobilisation des pédiatres qui est en train de débuter sur ce phénomène, qui est indépendante des formes graves de l'enfant qu'on appelle le PIMS, où la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations récentes.
On a un témoignage à nouveau sur la vaccination, témoignage de Patrick qui nous a appelé au standard de France Inter. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir aux auditeurs de France Inter, bonsoir à tous. Voilà, en fait, moi j'ai été pas diagnostiqué, j'ai eu les symptômes du Covid long en décembre, et depuis 6 mois, j'ai eu, un peu comme le témoignage de l'auditeur précédent, les symptômes désagréables du Covid, à savoir avec une prise en charge médicale, avec beaucoup d'examens.
Et comme disait notre invité Mathieu Lestage.
Oui, ça a duré à peu près 4-5 mois et suite à ça, je me suis fait vacciner parce que, évidemment, quand on est malade, moi j'ai cherché un peu sur Google et je suis tombé par hasard sur une étude, je crois, d'origine britannique qui expliquait Alors, ils ne savaient pas spécialement pourquoi, mais que, notamment chez ceux qui avaient été vaccinés par Moderna, qu'ils avaient constaté une baisse significative des symptômes suite à la vaccination. Alors, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, puisque de toute façon, moi, j'avais aucune réponse du secteur médical à part de me dire ce que je savais déjà, que bah, j'avais effectivement les symptômes, mais qu'on ne savait pas faire grand-chose pour moi. Donc, j'ai accepté la vaccination. Alors, effectivement, la première dose, j'ai pas eu d'amélioration significative. Par contre, à la deuxième, c'est vrai que force est de constater que j'ai pas tout récupéré, mais quand même, j'ai quand même retrouvé un peu plus de... Enfin, c'est beaucoup plus paisible que ce que c'était avant. Voilà, c'était juste mon témoignage.
Merci, merci pour votre témoignage, Patrick. Dominique Salmon-Séron, c'est possible ça qu'une deuxième dose de vaccin puisse réduire les symptômes?
Oui, je vous remercie pour votre témoignage parce que je n'ai peut-être pas assez expliqué tout à l'heure qu'en fait, il y a une évolution biphasique. Certains peuvent s'aggraver après la première ou la deuxième dose, mais si on attend que la réponse immunitaire se mette en place, c'est-à-dire au bout de 15 jours, 3 semaines, on a une amélioration chez 20% des gens. Et c'est assez frappant de voir les témoignages. Les gens disent « Ah, oh, je me sens apaisée comme avant, je retrouve un peu d'énergie le matin ». Donc, vous n'êtes pas certain d'avoir tous cette amélioration, mais elle peut arriver. Les autres avantages, c'est que ça peut éviter une réinfection. Et ça, c'est quand même embêtant quand on a déjà eu un Covid long d'avoir une réinfection. Et puis, aussi, ça va augmenter votre taux d'anticorps de façon importante. Donc, ça va protéger contre des variants. Parce que le fait d'avoir eu un Covid ne protège pas contre les variants. Il faut une vaccination beaucoup plus large pour protéger. Donc moi, je tenterai le coup. Si j'étais dans ce cas-là, je me ferais vacciner, vraiment.
Alors, on a une question au Standard de France Inter de Noémie, qui nous appelle de Savoie. Bonsoir, bienvenue Noémie.
Oui, bonsoir. J'appelle parce que je voudrais savoir si on peut attraper un Covid long à distance de la primo-infection. Ça veut dire, est-ce qu'on peut choper un Covid asymptomatique en octobre-novembre et puis en mars-avril suivant se mettre à déclencher des symptômes d'un Covid long, quoi, des céphalées, des nausées, ce brouillard dont vous parlez, enfin... Ouais.
Merci pour votre question, Noémie. J'ajoute à la question de Noémie la question de Jocelyne qui dit « Y a-t-il des signes biologiques sur la prise de sang d'un Covid long ?» Alors, est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions?
Alors, c'est vrai qu'on peut avoir un intervalle libre. Là, l'intervalle libre, il est quand même vraiment large, hein, ce que vous dites, parce que ça fait plus de 6 mois. Mais il y a des... Et puis, on n'a pas vu, ça ne veut pas dire que ça existe, de Covid long après des formes complètement asymptomatiques. Mais il y a des gens, quelquefois, qui font un Covid très bénin. Tout rentre dans l'ordre, la personne reprend ses activités, son travail. Et puis, tout d'un coup, c'est souvent après un effort physique, hein, par exemple, un grand voyage, une grande marche... on voit apparaître de façon assez brutale de nouveaux symptômes qui n'existaient pas au premier épisode. Donc ça, c'est possible. C'est un peu le délai dans votre cas qui est un peu long, qui fait plutôt peut-être envisager une réinfection, mais c'est quand même possible. Hein. Et en termes de biologie,
c'était... Voilà, c'est ça. On ne peut pas le vérifier avec une prise de sang. Se dire, faire la prise de sang et dire « Ah bah oui, effectivement, c'est lié à un Covid long, ça, c'est pas possible. »
Non. La prise de sang va vous dire si vous avez une sérologie et puis la PCR si vous avez le Covid. Hein. Et en termes de prise de sang biologique, c'est ça qui est très difficile et qui fait que certains médecins, on l'entend penser que c'était une maladie psychosomatique, c'est que les examens complémentaires sont très peu perturbés. On a des petites choses quand même, hein, un petit peu d'inflammation, un peu d'anomalie des enzymes hépatiques, du cholestérol, quelquefois des anticorps. Mais il n'y a pas... gros symptômes, une grosse anomalie biologique qui vous fait dire c'est un Covid long. Il faut aller faire des examens beaucoup plus complexes.
Et j'avais une question, mais sensiblement comparable, de Valérie qui nous a écrit sur l'application France Inter. Peut-on avoir fait un Covid asymptomatique et avoir des symptômes de Covid long pendant des mois? Ça, vous disiez,
oui. On ne sait pas. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais la plupart des personnes qu'on a vues avaient fait, disons, 95% des personnes qu'on a suivies avaient fait un épisode de Covid symptomatique. Pas forcément important. D'ailleurs, une publication vient de sortir disant que les facteurs de risque de faire un Covid long étaient, bon, ça on en a déjà parlé, plus le sexe féminin, quoi qu'il y a quand même 25% d'hommes, le fait d'avoir fait beaucoup de symptômes au Covid initial, c'est-à-dire les gens qui ont fait à la fois céphalée, diarrhée, tout, oppression thoracique, etc., en plus de risques, Et puis le fait de développer des taux d'anticorps faibles aussi, ceux qui n'arrivent pas à développer de bons taux d'anticorps après le premier Covid. Donc voilà, je pense que c'est pas impossible de faire un Covid asymptomatique et de faire un Covid long, mais c'est plus rare, beaucoup plus rare.
Une question de Anne également sur notre application France Inter. Les personnes victimes du Covid-19 semblent souffrir d'une forme de vieillissement accéléré. Est-ce le cas, Dominique Selmont-Séron?
C'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. Je pense pas. Je pense que les gens sont fatigués très souvent après un Covid, hein, puisqu'on a vu que 30% ont des symptômes, mais vieillissement accéléré, j'espère que non.
C'est difficile à dire. Y a-t-il des études, demande Eric, sur les cas de Covid et les traitements que ces personnes prenaient avant?
Sur les traitements avant le Covid long ou sur la recherche sur le Covid long?
Ce que je comprends de la question d'Eric sur notre application, c'est que si on prenait un traitement préalablement au fait d'attraper la Covid, est-ce qu'on peut développer plus facilement un Covid long selon le traitement qu'on prenait avant?
A priori, non. J'ai pas vu ça. Pour l'instant, j'ai pas vu ça. C'est vrai qu'on a plus de gens qui sont allergiques, donc plus de gens qui prenaient des antihistaminiques, plus de personnes qui prennent des médicaments pour une maladie auto-immune, mais c'est pas des facteurs de risque. Non, je pense pas que le type de traitement préalable à la Covid soit un facteur de risque. Ça n'a pas encore été étudié ni mis en évidence.
Question que certains de nos auditeurs doivent se poser, c'est une question de Françoise. Peut-on avoir eu un Covid long ou avoir un Covid long et des tests qui sont tous négatifs? Merci beaucoup.
Voilà, alors là c'est clair que oui. Et c'est même peut-être un facteur de risque de Covid long. C'est-à-dire que tous les patients n'ont pas une documentation de l'infection. Certains n'ont pas pu faire de PCR au moment du Covid initial, surtout pendant la première vague. Et certains, environ 40%, n'ont pas développé d'anticorps ou ont fait une petite réponse anticorps très passagère, ce qui fait que quand on les voit, ils n'ont plus d'anticorps. Donc ça ne doit pas du tout les faire exclure du soin et dire « Madame, monsieur, passez votre chemin, ce n'est pas un Covid long ». Non, non, c'est tout à fait possible. Et on va peut-être même s'apercevoir que c'est un facteur qui peut peut-être expliquer le fait d'avoir un Covid long.
Mathieu Lestage, est-ce que vous êtes fait tester, est-ce que vous avez fait une sérologie récemment qui montre que vous avez développé des anticorps ou pas d'ailleurs?
Alors je n'ai pas encore fait de sérologie, enfin j'en ai fait une mais elle était globale et pas assez lisible par rapport à certains taux. Ma prochaine sérologie est au mois d'août. Justement, en fait, j'ai poussé pour savoir si la vaccination m'était faisable. Et donc, après cette sérologie, on verra si oui ou non, je peux avoir une réponse favorable pour la vaccination. On parlait des études il y a quelques minutes. Et je tenais à dire que le professeur Salmon, on a pris en charge quelques-unes. Et il y en a quelques-unes qui sont en cours. Malheureusement, elles ne sont pas... Elles sont autofinancées, c'est-à-dire que c'est les régions, la région par exemple PACA, qui a financé quelques études, mais le gouvernement n'a pas encore donné de dons, enfin n'a pas fait de financement pour ces études. Elles sont autofinancées. Après J20, on a financé pour le professeur Salmon.
Votre association, après J20.
Notre association, c'est ça. Et je pense que c'est important dans d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre. Des études sont financées et des financements sont mis en place pour aider la recherche. C'est très important pour nous, pour nous aider à pouvoir enfin retrouver une vie normale.
Dominique Selmont-Séron veut réagir.
Oui, d'ailleurs, je voulais déjà vous remercier, l'association Après J20, pour votre mobilisation sur la recherche. C'est extrêmement important pour nous, mais quand même nuancer votre propos. Parce qu'il y a quand même... Des financements qui ont été apportés sur la recherche sur le Covid long, avec notamment la mise en place de cohortes. Il y a une cohorte hospitalière, donc pour suivre les gens qui ont été hospitalisés, et eux aussi ont beaucoup de symptômes et peuvent développer un Covid long. Et une autre cohorte en ville, pour voir à partir du Covid, vous voyez, suivre des gens qui font un Covid, et voir lesquels vont développer un Covid long, pourquoi, etc. Donc ça, c'est très important.
Et ça, c'est avec des financements français?
Ça, c'est des financements français, qui passent par des appels d'offres habituels. Il y a aussi des recherches spécifiques. Par exemple, j'ai des collègues qui sont financés à Necker pour une recherche sur les mastocytes, un peu, si vous voulez,
ce qui donne. Qu'est-ce que c'est les mastocytes ?
C'est des cellules qui provoquent des réactions un peu inflammatoires, pseudo-allergiques. Hein. Voilà, il y a des. Mais tout n'est pas financé et ça va pas assez vite. Et là où je rejoins Mathieu, c'est que les autres pays, notamment l'Angleterre, les États-Unis, ont mis sur la table des millions de livres ou de dollars. Spécifiquement sur le Covid long. Il y a des appels d'offres spécifiques sur le Covid long. Et je crois qu'il va falloir faire ça en France aussi, parce que si on passe les appels, les projets Covid long au milieu de toute la recherche, tout est urgent. Et bien sûr, c'est urgent de prendre en charge les gens qui sont sous ventilation artificielle, ceux qui font des accidents vasculaires au moment du Covid. Enfin, il y a beaucoup de choses urgentes. Donc, ce qui serait très utile, et c'est ce que vous soulignez, c'est de faire un fonds dédié sur le Covid long. Parce que sinon, chaque chercheur est obligé de chercher des financements. On y arrive, mais c'est très difficile, quoi. Et du coup, ça va pas assez vite.
Je profite du fait que vous parlez des États-Unis. Joe Biden, le président des États-Unis, dit aujourd'hui qu'il entend faire reconnaître le Covid long comme un handicap qui ouvrirait donc les droits à des ressources, à des services, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ?
Ça va être indispensable. Ça va être indispensable. Pour l'instant, l'entité Covid long est difficile à définir parce qu'il y a tout un tas de formes. Il y a des formes peu sévères. On ne va pas, par exemple, reconnaître comme une maladie handicapante quelqu'un qui a juste, disons, une fatigue ou mal à la tête, encore que ce soit quelquefois très handicapant. Alors qu'il faut mettre en place une reconnaissance de maladie handicapante ou de maladie professionnelle pour des gens qui ont des symptômes neurologiques, etc. Donc, il y a quelque chose à faire, hein, c'est sûr. Alors, on a déjà avancé, c'est-à-dire qu'un médecin qui pense que son patient est vraiment pas bien peut faire une demande de 100%, de prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Ça, là, maintenant, les caisses de sécurité sociale acceptent à condition que ce soit bien documenté.
Donc, c'est considéré comme une affection longue durée dans ces cas-là?
Oui. Pas au titre des 30 maladies reconnues, mais une affection de longue durée, ça peut être reconnu. On commence aussi à avoir quelques patients qui ont une reconnaissance de maladie professionnelle. Donc ça, c'est très rare, ça demande des expertises. Mais là aussi, si c'est très bien documenté, il faut malheureusement avoir une documentation virologique souvent, ou sérologique, on peut y arriver. Mais c'est les premiers pas simplement. Je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Et effectivement, peut-être qu'on aura quelques patients qui devront avoir une reconnaissance de statut de travailleur handicapé, peut-être de façon provisoire, mais ça pourra beaucoup les aider peut-être pour leur démarche et leur prise en charge de la vie de tous les jours et professionnelle.
Mathieu Lestage, ça fait partie des demandes de votre association après J20, la prise en charge, le progrès c'est dans la prise en charge.
Effectivement, c'est même la première demande de l'association, c'est la reconnaissance administrative de cette maladie pour qu'il y ait une meilleure prise en charge de ces malades, pour qu'il y ait une reconnaissance, une prise en charge. Certains malades, malheureusement, ont perdu leur emploi, se retrouvent dans des situations précaires.
Un tiers des victimes, d'après l'INSERM, hein, je donne le chiffre, un tiers des victimes n'a pas pu retourner travailler, un tiers des victimes de Covid long.
Et malheureusement, pour tout ce qui est financer le milieu médical, continuer à faire ses soins, la prise en charge, si elle n'est pas reconnue par les médecins, parce que malheureusement encore certains médecins traitants ne reconnaissent pas leurs patients en tant que tels, en tant que Covid long, la prise en charge du coup à 100% n'est pas établie, et à ce moment-là, un processus d'avancer les frais médicaux se met en place, et tout un processus de précarité aussi, du coup. La deuxième chose, c'est une fois qu'on est reconnu, ça nous permet d'avoir un accès aux soins, et là encore, il y a une différence selon les régions, les hôpitaux avec des soins pluridisciplinaires ont du mal à se mettre en place. À Paris, c'est fait. Dans la région PACA, c'est fait. Mais certaines régions, malheureusement, se retrouvent dans un vide médical et les patients se retrouvent tout seuls.
Une question alors sur les suites du Covid long de Sabrina dans le Val-de-Marne. Bonsoir Sabrina. Sabrina, vous êtes avec nous sur France Inter ? Vous êtes en direct ?
Oui.
Voilà, on vous entend. Oui. Vous êtes en direct sur France Inter, Sabrina. Bonsoir.
Je vous remercie de prendre mon appel et pour la qualité de vos émissions. Donc moi, j'en suis à mon deuxième Covid long. Je l'ai eu en février 2020 et j'ai été essoufflée pendant plus de 10 mois, mais ça m'a pas empêchée d'aller travailler. Et là, j'ai fait ma première dose de vaccin et je l'ai eu 2 mois après, mais le variant anglais. Et je suis depuis très très fatiguée, c'est-à-dire que j'ai pas pu reprendre le travail à plein temps. Essoufflée, mais ça je peux gérer. Et j'ai fait tous les examens médicaux, on trouve pas grand-chose, mais je voudrais savoir justement pour la fatigue et pour reprendre mon travail, s'il y a des choses qu'on nous conseille ou des traitements qui peuvent être pris. Première question. Et la deuxième concerne un de vos auditeurs qui a appelé, qui disait qu'il avait fait une deuxième dose de vaccin. Moi, j'ai eu mon pass sanitaire. Donc, est-ce que je peux faire une deuxième dose? Est-ce que ça peut être utile? Voilà, je savais pas qu'on pouvait faire une deuxième dose, qu'on avait déjà eu le Covid et qu'on avait fait déjà une dose.
Merci Sabrina. Les réponses du professeur Salmon Seron.
Alors, je pense que oui, vous avez beaucoup de choses envisageables. Hein. Déjà, la rééducation respiratoire, ça va beaucoup vous aider, je pense. Hein. Si on a éliminé une péricardite ou une myocardite, bien sûr, il faut pas hésiter à faire de la rééducation respiratoire. Et une fois que votre respiration sera rééduquée, peut-être entrer dans un programme de réhabilitation par le sport. Pour la fatigue, malheureusement, faut être un peu résilient, c'est-à-dire essayer de modérer vos efforts pour pas déclencher cette fatigue. Alors, il y a des médicaments anti-fatigue qu'on donne. Je ne vais pas vous donner les noms, mais vous pouvez en discuter avec votre médecin. Ça vaut le coup de les tester. Et puis, pour la deuxième dose, si vous êtes à plus de 3 mois de deuxième Covid, oui, je pense que vous pouvez faire votre deuxième dose, tout à fait. Hein? Ou alors, vous faites une sérologie, vous regardez si votre taux d'anticorps est très, très élevé, c'est pas la peine, mais s'il est modéré, vous faites la deuxième dose.
Je vous pose très rapidement, Dominique Salmon-Seron, une question qu'on a reçue par mail. Observe-t-on une rechute chez les personnes atteintes de Covid long?
Là aussi, je ne sais pas si je vais répondre très précisément à la question de l'auditeur. Le Covid long évolue par rechute. Hein, c'est-à-dire que c'est une des caractéristiques du Covid long, c'est d'évoluer par exacerbation, qui sont déclenchées par l'effort, par le stress, les émotions. Donc on peut faire des rechutes et puis on peut faire des réinfections aussi.
Mais on a compris qu'il fallait s'accrocher. Merci oui, Dominique voilà. Salmon-Seron, oui. Infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Merci à Mathieu Lestage, membre de l'association Après J20. Grand merci à Pierre de Certaines pour la préparation de cette émission avec Adèle Domas et Zoé Fauché. Merci aux standardistes de France Inter et à Michel Bézikian et Clément Berman à la technique aujourd'hui.